Chapitre 2. En 1901, alors qu'il était tout enfant, Kevin Barnes avait assisté à l'inauguration de la ligne de chemin de fer entre Mombasa, sa ville natale, et Port Florence sur les bords du lac Victoria. Il était tombé amoureux des trains. 40 ans plus tard, le colonel restait fidèle à ce mode de transport, ne le boudant que s'il ne pouvait pas faire autrement. Ce fut le cas cet après-midi de mai 1942, quand il lui fallut se rendre à Londres de toute urgence. Le colonel se fit conduire à l'aérodrome de Glasgow, où l'attendait l'appareil affrété à son intention par les services du Premier ministre. L'avion décolla aussitôt, prit de l'altitude, et survola bientôt les fortifications que les Romains avaient fait construire pour protéger la frontière nord de leur empire. À plusieurs reprises, Barnes s'était rendu du côté de Cadiz Crag et y avait médité sur la vanité des entreprises humaines. Un jour lointain, il en était persuadé, l'empire britannique à son tour ne serait plus que ruine. Pour l'heure, il fallait le défendre, puisque son sort était lié à celui de l'Angleterre. La nuit était tombée quand le colonel franchit l'entrée du Home Office, où son vieil ami gallois l'attendait. Un quart de siècle auparavant, pendant la Grande Guerre, le jeune policier Jackson s'était retrouvé muté en Afrique de l'Est aux côtés du gouverneur Belfield. C'est ainsi qu'il rencontra Kevin Barnes lors d'une soirée donnée par Lord Delamere au Norfolk Hotel de Nairobi. Il sympathisa aussitôt avec lui et tous deux finirent la nuit au Champagne en compagnie d'une belle Danoise, Karen Blixen, dont on trouvait aujourd'hui, 25 ans plus tard, le livre « Out of Africa » dans toutes les librairies du royaume. Les deux amis se saluèrent ce soir-là avec la raideur calculée qui caractérise les Britanniques. Jackson sortit une bouteille de gin d'un de ses tiroirs. Barnes eut un sourire. En bon colonial, il carburait à l'alcool. « La seule fois de ma vie où j'ai bu de l'eau, disait-il souvent, c'était à Zanzibar, et je me suis retrouvé à l'hôpital. » Il ne se posait jamais de questions d'ordre personnel. Jackson savait que Barnes ne se remettait pas de la mort de sa fille. Et de son côté, le colonel n'ignorait pas que son ami livrait un dur combat contre le cancer. Ils échangèrent des banalités sur les conditions météorologiques. Après avoir allumé une Golden Flake, le policier se saisit d'un épais dossier. « J'ai passé la journée à compléter nos informations sur ce Christine Lloyd, fit-il, car il y a urgence, n'est-ce pas ?» Barnes acquiesça. Le dernier message du Caire est encourageant. Le major Kennedy nous a enfin trouvé un cadavre. Un certain Da Silva, bras droit du nonce apostolique à Goa. Mort d'un infarctus à l'hôpital militaire. Requiescat in pace. Jackson se saisit d'une de ses fiches. Voyons cela. Christine Lloyd mesure 1,75 m. Quelle est la taille de Da Silva? 1,78 m. Parfait. Couleur des yeux? Marron. Il portait des lunettes d'écaille. Kennedy les a avec lui, bien sûr. Le policier eut un sourire. Bon, ça devrait aller, d'autant que les deux hommes ont à peu près le même âge. Nous marquons un point avec les lunettes, car c'est ce que l'on remarque tout de suite. De toute façon, nous n'avons plus les moyens de faire la fine bouche. Revenons-en à ce Christine Lloyd. Il me paraît parfait pour Bushido. Européen, mais avec du sang indien dans les veines, parlant allemand comme un Boche, mère allemande, études en Allemagne, plusieurs années à Heidelberg, par ailleurs diplômé d'italien. Une violente douleur à l'estomac plia Jackson en deux. Il dut avaler une gorgée de gin avant de poursuivre. D'après ses informations, reprit-il, Christine Lloyd connaissait aussi le français, l'hindoustani et le gurkhali. Mais hélas, pas le Konkani, la langue de Goa, conclut-il. Un peu gênant pour un Goanais. Cela dit, je doute qu'il y ait beaucoup d'Allemands à faire la différence entre le Konkani et l'Hindoustani. Barnes restait sceptique. Détrompe-toi, Eric. Il y a de brillants linguistes en Allemagne. De toute façon, nous n'avons personne d'autre. Et côté religion, parfait sur toute la ligne. Lloyd a été élevé chez les jésuites. Prévoyons à tout hasard une petite remise à niveau. L'ennui, reprit le colonel, c'est que notre futur prélat est actuellement en prison à Liverpool. Jackson éclata d'un rire enfantin. Il se passa la main dans les cheveux qui avaient gardé la blondeur de l'adolescence. « Et alors, il n'a jamais été condamné ?»« Eh oui, Kevin, c'est la guerre. La morale doit se plier aux exigences de l'heure. » Ce que le gouvernement reproche à notre homme, c'est d'avoir du sang boche dans les veines. Il était présumé fasciste. Pourtant, tous les témoignages convergent. Kristen Lloyd ne s'intéresse pas à la politique. Conservateur dans l'âme, oui, sans aucun doute. Nationaliste de cœur, peut-être. Évidemment, il connaît bien Oswald et Diana Mosley, a trinqué avec Goebbels et Ribbentrop dans les dîners en ville et serré la main de Hitler au mariage des Goebbels. Ce qui ne faisait pas de lui un traître, car le propre des traîtres, justement, est de jouer double jeu, de raser les murailles et d'avancer masqué. L'anglo-indien semblait plutôt un grand naïf, tellement naïf qu'il croyait en la liberté d'expression. « À moins que ce ne soit moi le grand naïf, » reprit Barnes en jouant avec son crayon. « Et si Christine travaillait pour les Allemands ?»« Possible, » concéda Jackson. Compte tenu de ses mauvaises fréquentations, on ne pourra jamais être sûr de lui à 100%. Sur le plan psychologique, cet homme m'échappe, je l'avoue. Il vit de ses rentes et va à la chasse au Kenya, en Afrique du Sud et en Argentine. Une fine gâchette, paraît-il. Et puis, et ça c'est plus inquiétant, il est resté célibataire. Bizarre, en effet, l'argent attire les femmes. Jackson eut un sourire. La misogynie du colonel n'était pas une nouveauté. Le fait est, poursuivit le policier, que ce Lloyd vit avec ses chats et son majordome, un Gurkha de 70 ans, pensionné de l'armée des Indes, qui se ferait tuer pour son maître. Nous sommes allés interroger le bonhomme à Todmorden. Pas facile. Il est toujours en déplacement. Nous sommes revenus bredouille. Le Gurkha n'a pas dit un mot. Il ne parle pas anglais ? Le policier savoura son effet. Ni anglais, ni chinois, ni tagalog. Il ne parle pas. Des patents l'ont torturé en 1919. D'après ce que j'ai compris, il a alors fait le vœu, s'il en sortait vivant, de ne pas parler pendant 25 ans. Et il tient parole. Les hindous sont des gens bizarres. Il y en a qui passent 40 ans le bras levé, d'autres qui se promènent à poil ou vivent dans un arbre. Reste que notre Gurkha est un héros. Victoria Cross, pension d'invalidité, une lettre personnelle du vice-roi Chelmsford. Après la guerre, il est devenu le garde du corps du père de Christine, puis chauffeur d'un Maharaja. C'est d'ailleurs un fou du volant. Nous ne tirerons rien de lui, même en lui coupant les couilles. Il faudrait d'ailleurs une scie à métaux, car ils les ont en acier. Concluons. Lloyd a le bon profil, seules ombres au tableau, son ascendance allemande, son amitié avec le clan Mosley, son flirt peut-être avec le fascisme. Seul handicap réel, il ne parle pas la langue de Goa. Notons aussi qu'à Berlin, il est connu comme le loup blanc. Quelqu'un peut le reconnaître. Barnes secoua la tête. L'habit fait le moine, et notre futur héros se laissera pousser la barbe. Personne ne le reconnaîtra. Le colonel jeta un coup d'œil à sa montre. « Et si nous allions dîner ? Nous avons besoin de force. Demain, nous serons à Liverpool, pour un entretien d'embauche. » Le Caire. Le suaire de brume qui recouvrait les bords du Nil commençait de se dissiper quand le camion de l'armée britannique s'arrêta devant le cimetière chrétien. Le major Kennedy avait menti à Antonino Froschi. Monseigneur Mario da Silva allait recevoir une sépulture chrétienne, mais en la seule présence d'un aumônier catholique de Hong Kong et d'un peloton de Néo-Zélandais. Une croix fut préparée au nom d'un certain Richard O'Rourke, archéologue, 1892-1942. Des documents officiels attestaient que le sieur O'Rourke était né aux îles Malouines, au large de l'Argentine. Personne n'aurait les moyens de constater que le défunt était mort avant d'avoir pris la peine de naître. De retour à son quartier général, le major examina une fois de plus les effets personnels de l'ecclésiastique et en dressa une liste exhaustive. Paire de lunettes en écaille, passeport diplomatique, bréviaire en portugais, trousseau de clés, dictionnaire anglais-italien, 3 000 $ en petites coupures, une cartouche de Carreras, 2 paquets de Capstan et les 7 piliers de la sagesse de T.E. Lawrence dans l'édition Doubleday de 1937. Kennedy décida de garder le livre pour sa bibliothèque personnelle. Cela faisait des années qu'il se promettait, justement, de lire Lawrence d'Arabie. Après une courte hésitation, il prit aussi la moitié des billets de banque. Les temps étaient durs, après tout, et le dollar était une valeur sûre. Puis l'officier envoya un message à Delhi. Il serait utile d'en savoir plus sur Da Silva. La réponse ne parviendrait pas avant une bonne semaine. Restait à boucler sa valise. Dans 2 heures, Kennedy s'envolerait pour Jérusalem, où il resterait le temps qu'il faudrait avant de partir pour Malte. Il allait enfin prendre de vraies vacances. Porto Amelia, Mozambique portugais. Jutta Wurtz aperçut le champ qui servait d'aérodrome alors que la jauge d'essence donnait des signes d'épuisement. Elle survola 2 fois le terrain en battant des ailes, puis se posa en douceur. Quelques hommes sommeillaient près des hangars. 2 Portugais s'approchèrent de l'appareil en se frottant les yeux. 1 ou 2 fois par mois, de petits avions venaient ainsi se poser sans crier gare, mais c'était la première fois qu'ils voyaient une femme aux commandes. L'appareil était immatriculé au Tanganyika, ce qui ne les surprit pas. La rivière Ruvuma, qui séparait les 2 colonies, n'empêchait pas les riches colons anglais de venir, d'un seau de puce, s'approvisionner en alcool à Mocimboa da Praia ou à Porto Amelia. Le passeport que l'étrangère leur tendit était au nom de Muriel Dunstan, née Williams. Les Portugais le lui rendirent sans s'y être attardés. La visiteuse ne ressemblait guère à la photo, mais les femmes, c'est bien connu, sont de vrais caméléons. Elles changent sans arrêt de nom, de visage et de couleur de cheveux. Au reste, les papiers de l'appareil confirmaient que le Curtis appartenait bien à un certain Rufus Dunstan, citoyen britannique domicilié à Mpwapwa. Les Portugais, d'ailleurs, n'avaient aucune raison de se méfier des Anglais. Lisbonne jouait la carte de la neutralité, mais celle-ci n'excluait pas la bienveillance. Les employés de l'aérodrome comprirent que Jutta voulait être conduite au port. Les livres sterling qu'elle leur distribua achevèrent de les convaincre. 1 heure plus tard, l'Autrichienne débarquait sur les quais. Elle espérait trouver un boutre qui la conduirait vers le sud. La chance fut de son côté. Un bateau de commerce portugais était ancré à quelques encablures du port. Elle utiliserait son charme pour convaincre le commandant de la prendre à bord. Liverpool. Le subadar-major Toulbahadur Tapa, du 5e régiment royal de Gurkha, stoppa l'ambulance à 800 mètres de la prison. Cela faisait des semaines qu'il était présent sur les lieux et préparait l'opération de diversion que Kristen Lloyd lui avait confiée. La nuit précédente, le Népalais avait placé 4 charges d'explosifs à quelques mètres des murs de la prison. Pour faire bonne mesure et ajouter à la confusion que créeraient les déflagrations, à quelques secondes d'intervalle, il disposa également 2 autres charges à 1 kilomètre de là. L'heure H était fixée à 3 heures du matin. Kristen Lloyd serait sur le mur nord 5 minutes après le début de la première explosion, ce qui laisserait peu de temps au Gurkha pour appuyer sur les détonateurs, car l'homme n'avait plus la souplesse de ses 20 ans, lorsqu'il combattait en Mésopotamie ou en Afghanistan. Pour autant, il saurait montrer aux freluquets que la jeunesse était une notion toute relative. À 70 ans, Tapa se sentait dans la fleur de l'âge. La préparation avait été longue et délicate. Pendant plusieurs semaines, le Gurkha se contenta d'observer ce que faisaient les gardiens quand ils quittaient la prison. Il nota leurs habitudes et leurs trajets, les suivant à pied, à moto ou en voiture, une Maurice achetée au marché noir, et remarqua bientôt que l'un des matons, marié et père de famille, rôdait le soir du côté des docks. Un jour, il le vit monter dans un hôtel borgne en compagnie d'un jeune matelot. Quand l'homme ressortit 1 heure plus tard, le subadar-major l'attendait, son redoutable coucri à la main. Il le poussa à l'arrière de la Maurice, lui attacha les mains à la portière et démarra. Une heure plus tard, l'affaire était conclue. Terrorisé, le gardien lut le message que le Népalais lui tendait. Le contrat était clair. Il devrait faire le facteur entre Tapa et Kristen Lloyd. Faute de quoi... Le plus dur était fait. Il n'avait pas été facile de trouver des explosifs, mais l'économie parallèle fonctionnait à plein régime. Et le Gurkha disposait de beaucoup d'argent. Il dut aussi acheter une moto et une camionnette, qu'il transforma en ambulance. Par ailleurs, les restrictions d'essence ne facilitaient pas les déplacements. Une fois de plus, Tapa se tourna vers le marché noir. Tout s'achète, mais à prix d'or. L'essence, le silence, les fausses identités. Le plan était simple. À 3 heures précises, le subadar-major sauterait sur sa 350 cm³ BSA, cachée à l'intérieur de l'ambulance. 30 secondes plus tard, la première charge exploserait. À chaque fois, le Gurkha devrait sauter de son engin et appuyer sur le détonateur, puis remonter sur la moto. Tout cela prendrait 2 minutes. Il foncerait alors vers les 2 premières charges à 1 km de là. Puis il retournerait à l'ambulance, pousserait la moto à l'intérieur, passerait une blouse blanche et s'installerait au volant. La confusion, aux alentours de la prison, serait alors à son comble. Personne ne s'étonnerait, bien au contraire, de voir arriver une ambulance. Tapa n'aurait plus qu'à cueillir Kristen au bout de sa corde. Le Gurkha donna un coup d'œil à sa montre, 2h56. Il sourit. Un peu d'action, après tout, ferait du bien à ses vieux os. Le Caire. Kurt Wolf, lui aussi, jeta un coup d'œil à sa montre. Trop tard. Le Guanais ne viendrait pas. Monseigneur da Silva lui avait pourtant téléphoné la veille, dès son arrivée au Caire. Rendez-vous avait été pris pour 23 heures devant les grilles du musée. Le prêtre devait lui remettre un livre, « Les 7 piliers de la sagesse » de T.E. Lawrence, que lui avait confié à Goa un espion allemand. Glissé dans la reliure, des microfilms contenaient des informations essentielles sur la situation militaire et politique en Inde et à Ceylan. Nanti d'un nom grec et d'un passeport turc, Wolf travaillait pour les services secrets allemands, alors très actifs dans la région, en prévision de la prochaine invasion de l'Égypte par les troupes de Rommel. Les ordres de Berlin étaient clairs. Ces documents venus de Goa devaient être acheminés à Ankara, d'où ils repartiraient pour Berlin. L'Allemand savait que Mgr da Silva était l'hôte du révérend père Froschi, le nonce apostolique par intérim. Or, justement, celui-ci vivait près de l'église Saint-Serge, à 3 km de là. Il n'était pas question d'attendre plus longtemps. Wolf sauta sur sa moto, qui reprit vie sous son premier coup de talon. Antonino Froschi était un couche-tard. Il aimait la longueur de ses douces soirées du Caire, qu'il passait au milieu des fleurs et des palmiers de son jardin, penché sur son bréviaire ou sur un recueil de poèmes, ceux de Cavafy par exemple. La journée avait été rude, et le prêtre italien se trouvait ce soir-là dans son bureau, où il rédigeait d'une plume alerte le rapport qu'il allait envoyer au Vatican sur le passage précipité de Mgr da Silva. Le téléphone intérieur se mit soudain à sonner. Sœur Myriam l'informa qu'il avait de nouveau un visiteur. Il la pria de le faire monter. L'homme pénétra dans la pièce. C'était un Européen d'une 40aine d'années. Un bel homme, nota le prêtre en connaisseur. Le visiteur s'inclina devant le prélat. « Veuillez excuser cette heure tardive, mon père, » dit-il dans un anglais presque parfait. « Je suis le professeur Hieronymos Polokinos de l'Université d'Athènes. Je cherche à voir votre confrère, Mgr da Silva. Il m'a téléphoné hier dès son arrivée au Caire, mais il n'est pas venu au rendez-vous qu'il m'avait fixé. Alors je me suis inquiété. » Antonino Froschi, en bon jésuite, resta sans réaction apparente. « Vous êtes l'un de ses amis ?» L'homme eut un large sourire. « Nous nous sommes connus à Rome, il y a 10aine d'années. » Le prêtre tendit son paquet d'Africa. « Cigarette ?» Volontiers. Un ange passa dans des volutes de fumée. Monseigneur da Silva, reprit Frochy, a dû abréger son séjour. Il s'est envolé pour Jérusalem, d'où il repartira très bientôt pour le Vatican. Le visiteur eut l'air déçu. Et il n'a rien laissé pour moi? Il devait me rendre un livre auquel je tiens beaucoup. Les sept piliers de la sagesse, un ouvrage remarquable. Un oubli, sans doute. Dommage, vraiment dommage. L'Allemand se leva, écrasa sa cigarette dans le cendrier, salua le prélat et quitta la pièce. Le jésuite mentait bien, mais il mentait. Certes, il était possible que da Silva eût quitté le Caire, mais dans ce cas, il aurait laissé derrière lui le livre de Laurence. Il avait reçu pour cela une grosse somme d'argent, et le prélat Goanet savait bien que les Allemands le retrouveraient toujours à Jérusalem, à Ankara, à Rome ou à Paramaribo. Sœur Myriam attendait le visiteur au bas de l'escalier. Elle lui ouvrit la porte. Il s'apprêtait à franchir le seuil, quand soudain il se ravisa. « Je suis désolé d'être arrivé trop tard pour Monseigneur da Silva, » dit-il en arabe. La religieuse dodelina de la tête. Son éminence a rejoint la maison du père. Wolf crut avoir mal compris. Formé en Syrie, il maîtrisait mal le dialecte du Caire. « La maison du père ? Que voulez-vous dire ?»«
Che succede, sorella Myriam ?
Un problema ?» La religieuse se tourna vers l'escalier et se plia en deux. Frochy descendait les marches. « Non ci sono problemi, Eminenza, » répondit-elle. L'Allemand sortit son loguer et tira un seul coup. Le prêtre s'effondra sur le palier. Puis Wolf, très souriant, se retourna vers la religieuse. « Désolé, ma sœur. Où en étions-nous ? Ah oui, la maison du père. Que s'est-il donc passé aujourd'hui ?» Terrorisée, sœur Myriam avait du mal à trouver ses mots. « Une crise cardiaque, bredouilla-t-elle. Monseigneur da Silva est mort à l'hôpital. » « Père son âme. Mais que sont devenues ses affaires ?» La religieuse secoua la tête. « Les Anglais, Effendi. Ils ont tout pris. » L'Allemand tira une seconde fois. « Bienvenue dans la maison du père, ma sœur, » dit-il en rempochant son arme.